Pour tous les amoureux du jazz, Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Chers auditeurs, Marie-France Guimard-Roche est toujours derrière son petit micro rouge. Je crois que je ne vais pas le quitter. Peut-être je vais amener un lit de camp. Philippe, ça serait pas mal, un petit lit de camp. Mon cousin Philippe Gauvin est dans les studios aussi. Il a proposé ça à une autre occasion, d'apporter un lit de camp et de rester dans le studio.
Ah, mais on comme reste ça, dans son ambiance.
On y serait dès 6h du matin.
pour commencer à travailler, oui.
J'ai un invité dont je n'arrive pas à me séparer, donc nous allons faire une troisième émission avec lui. C'est Vincent Cordelette, batteur, qui est le successeur de Claude Bolling à la tête de son orchestre. Je vous en ai déjà parlé un peu. Et aujourd'hui, nous allons évoquer encore de la musique, naturellement, ça on ne peut pas s'en passer, mais aussi certains souvenirs plus proches de ton enfance, Vincent.
Oui.
Philippe te demandait ce que tu voulais être si jamais tu n'avais pas fait du jazz.
Si je remonte à l'adolescence, j'étais passionné par la chimie. Alors j'aurais bien voulu faire des études de chimiste ou de biologie. Ça, c'était un peu... Voilà, c'était
parce qu'à Noël, tu avais eu le
petit chimiste et je faisais des expériences de chimie à la maison. Alors voilà, ça c'était la première idée tant que j'étais en primaire et puis après au collège où j'étais plutôt bon élève.
La musique est une chimie de notes.
Mais bien entendu.
Dans les écoles de Dreux.
Comme l'amour. Dans les écoles de Dreux, bien sûr. J'étais à l'école Godot en CP et en CE1. Après, les écoles sont devenues mixtes et je me suis retrouvé à l'école Saint-Martin, l'école de filles, où du coup, on est passé à Godot, on jouait aux billes. Et on jouait à la corde à sauter à Saint-Martin, voilà.
Sympa.
Ouais, ouais. Et puis après, je suis rentré au lycée Rotrou, qui était encore un collège. C'était la dernière année où ils acceptaient les sixièmes. J'ai fait donc tout mon cursus collège-lycée à Rotrou. Alors après la chimie, non, je crois que j'avais un pied dans la musique définitivement, puisque j'ai commencé quand même assez tôt, à l'âge de 10 ans. Et j'avais envie de faire de la batterie, tout simplement, de la batterie, de la percussion.
Voilà. Ça a été ton premier choix d'instrument, c'était la batterie.
Oui, alors ma mère m'avait mis au piano avec mon cousin Jean-Pierre Husson à l'école de piano d'Anne-Marie Huvet.
Anne-Marie,
voilà.
J'avais mes pointes et j'allais danser chez Anne-Marie Huvet.
Oui. Une institution.
Une institution. Alors j'ai pris 2 ou 3 ans de cours de piano, très jeune, 6, 7, 8 ans.
Et c'était un bon professeur ?
Je n'en ai aucun souvenir, je n'aimais pas ça du tout. La seule chose que j'ai aimée, c'est qu'il y avait une audition de fin d'année qui se passait au théâtre de Dreux. Et à l'occasion, elle montait un petit orchestre avec des percussions, notamment les percussions de la méthode Orff. Des petits métallophones, des petites timbales. Et quand je me suis retrouvé avec une paire de baguettes à jouer sur un petit tome, voilà, ça a été la révélation.
Un petit tome.
Un petit tome, un petit tambour, voilà. Un petit tome. Oui, et bon, voilà.
Anne-Marie Huvet, de très, très vieux souvenirs. Moi, elle a bien essayé de m'apprendre le piano, mais j'avais une espèce de blocage pour les notes que je ne connais toujours pas. Le solfège.
Hein ?
Et en fait, c'est très drôle parce que j'ai fait quelquefois des boeufs avec des orchestres de jazz. J'adore chanter, même si c'est pas... je chante avec tout mon cœur, j'adore ça. Et en fait, les orchestres me disent « Alors, tu pars en quoi, toi, fa dièse ?» Écoutez, je
en
pars
mineur,
en...
mineur, septième truc, machin.
Je ne sais pas du tout en quoi je pars, mais vous partez. Et puis moi, je vous suis. Elle me dit « Oh, mais ça, c'est pas logique. C'est toujours le... » Je lui dis « Non, on va faire comme ça parce que je ne connais pas le solfège, mais j'ai une partition et je vois déjà si ça monte ou si ça descend. Donc avec une bonne oreille, il faut quand même bien avoir une bonne oreille. Ma foi, je m'en sors assez.
Ah, je résiste pas à l'envie de raconter une anecdote, pas une anecdote, une histoire drôle. C'est le chef d'orchestre qui réunit ses musiciens, ils ont joué la veille au soir, il dit, bon, alors ce soir, pour telle chanson, alors toi, au saxophone, tu vas partir 8 mesures après. En revanche, toi, la trompette, au lieu de faire ça en ré, tu vas le faire en do. Et puis le batteur, sur le tempo plutôt lent de balade, et ben tu vas plutôt accélérer le tempo. Et puis alors le piano, par contre, tu vas bien jouer et bien voilà. des conseils. Et la chanteuse disait, et moi, qu'est-ce que je fais? Toi, tu fais exactement comme hier.
Oui, c'était peut-être un peu ça, d'ailleurs.
On fait ce que l'on sait faire.
C'est génial, absolument génial. Mais c'est sûr que... Bon, alors, tu tombes dans le jazz. Dans la marmite bouillonnante du jazz.
Comme une maladie, en fait. Un virus.
Exactement. Et après, parce que alors, tu n'as pas fait que de la musique toute ta vie. Tu avais des hobbies?
Alors, attends. Si on remonte... Moi, je ne voulais pas faire de jazz. Ce n'était pas ça, mon truc. Je voulais faire... de la musique. Je faisais du rock avec des copains, je faisais du classique, j'étais à l'harmonie municipale, j'accompagnais des chorales catho, je faisais... Voilà. C'est ça que je voulais faire. Il se trouve que mon premier emploi a été de faire du jazz. Et j'aimais ça, et je suis resté là-dedans. Mais c'est vraiment... C'est parce qu'un copain m'a dit, tiens, ce soir, tu vas jouer dans telle boîte pour me remplacer, et j'ai été faire du jazz. Je ne connaissais rien au jazz avant ça.
Et la pêche dans tout ça?
Alors la pêche, ça, c'était un hobby que j'ai eu, parce que quand j'étais tout petit, mais je m'en souviens à peine, mon grand-père m'emmenait à la pêche, et mon oncle aussi, et avec un très
ton
bon ami...
grand-père Cordelette.
Mon grand-père Cordelette, oui. Mais j'avais, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans.
Je me souviens de lui, je crois... un monsieur assez fort, assez massif,
oui,
assez
fait.
Grand, mmh. qui était dans son épicerie de
son
la
épicerie
rue Rotrou.
De la rue Rotrou, tout à fait. Qu'il tenait avec sa femme et également son fils, mon père, donc. Mmh. Voilà. Mmh.
Ton père qui montait des spectacles divertissants, très divertissants d'ailleurs, avec mon propre père Amédée Gauvin et Monsieur Maison, c'était Jean-François Maison.
Oui, Jean-François Maison, oui,
c'est ça.
Tout à fait, ouais, ouais. Ils avaient un spectacle. Alors tout ça, ça bien sûr, ça m'a été. C'était le patronage Saint-Jean, je crois que c'était quelque chose
voilà,
comme ça.
Le voilà, patro, hum? Le patro.
Ouais, ouais.
Et donc cette pêche.
Oh bah cette pêche, c'est toujours resté un petit hobby, mais j'y suis très peu allé finalement. Même depuis que je suis à Chérisy, je crois que j'y suis allé 2 fois. Alors ça, en 23 ans, ça fait, c'est pas beaucoup. Puis maintenant, j'ai un peu des scrupules. Mais ça me plaisait. J'adorais le matériel de la pêche, les moulinets, les cannes à pêche, les fils, les hameçons, les leurres.
Au point de penser prendre une boutique, quoi.
Oui, à un moment donné, j'étais tellement accaparé par ce milieu de la musique. Je jouais tous les jours, j'étais en tournée. Je me disais, je vais ouvrir un petit magasin de pêche, voilà. Une petite boutique de pêche, j'aurai mes asticots en arrière-boutique, les verres de vase, les amorces, le chêne-vie, etc. Et tous mes amis musiciens rigolaient en disant « mais oui, bien sûr ». J'ai dit « si, je vous assure, un jour, je vais faire ça voilà. ».
J'ai côtoyé un peu les asticots avec le bateau que nous avions. Je pêchais à la palingrotte.
Palingrotte, oui.
Voilà, c'est ça. Mais à l'idée même d'enfiler l'asticot sur l'hameçon, quoi, c'est un peu chaud. Quoi.
Oui, oui, c'est un peu chaud. Je dois dire que j'ai un peu des scrupules à aller à la pêche maintenant, parce que j'ai plus très envie de martyriser ces pauvres poissons.
Quand oh, vraiment, ça faisait un petit peu partie du commentaire que je voulais faire. Tu parles de la pêche, mais que au niveau... technique, matériel, accessoires, etc. Mais prendre un poisson à l'occasion, éventuellement.
Non, pas plus que ça. Par contre, les journées à la pêche, c'est on, fait le, hein. On fait le vide. Quoi. On fait le vide. Ouais. Le moment le plus difficile, c'est de se dire, il faut que je parte. Voilà. Mais je pouvais arriver à 5 heures du matin et partir à 20 heures le soir. Et je ne bougeais pas. Moi, je ne fais pas de la pêche itinérante. J'étais assis à mon siège, me levais. Enfin, voilà.
Tu pêchais où?
Alors, je pêchais dans l'Eure.
À Chérisy?
Non, pas à Chérisy. Je pêchais au Ménil-Ponceau. Voilà.
Beaucoup plus loin.
Beaucoup plus loin, oui.
En amont, plus de poissons.
Avec un ami qui m'avait fait découvrir ce spot. Voilà. Et voilà. Mais c'est vrai que le poisson, une fois qu'on l'a attrapé, oui. C'est,
bon. Non, mais tu ne manges pas de poisson, quoi.
Oh, si. Ah si, si, on mangeait les brochets, oui, bien
mais
sûr.
Mais tu préfères que ce soit les autres qui le pêchent?
Ben oui, maintenant, j'ai plus envie de faire souffrir les poissons. Moins, en tout cas. Oui, un petit peu. Oui, de se dire, oui, tout ça pour ça, quand même. Bon, voilà.
Pas au point de devenir végétarien.
Ah non, pas du tout, non. Non, mais on mange moins de viande, quand même.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. que l'on voudrait bien changer. Au cours du voyage, ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne la rage qui apporterait du ciel. Y a plus qu'un message qui pourrait d'un coup changer au cours du voyage. Des plumes en écaille, des ailes en chandail, des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre?
Nous sommes toujours sur les ondes de Radio Grand Ciel. Et je reçois aujourd'hui Vincent Cordelette, qui va lâcher sa canne à pêche d'ailleurs, et Philippe Gauvin. Alors toi Philippe, tu pêches pas mais tu joues du piano.
Je joue du piano, oui, oui, je m'amuse bien.
C'est un
passe-temps qui est presque, je dirais presque passionnel, parce qu'il y en a qui vont dire tiens, je vais aller boire un coup, tiens, je vais allumer la télé, tiens, non, moi je fais, tiens, je m'assois à mon piano. C'est presque un réflexe, c'est une façon de me parler à moi-même déjà.
Moi, je sors mon micro et je dis tiens, je chante.
C'est bien, et il fait beau.
Et il fait beau.
Et oui.
Et il continue de faire beau, ce qui est extraordinaire.
Ah, mais oui, bien sûr.
Qu'est-ce que c'est pour vous deux la musique, en fait? Est-ce que c'est tout simplement la vie?
Pour moi, très clairement, oui, bien sûr.
Pour moi, c'est une part très importante de la vie.
Toi, c'est le dessin, ta vie.
C'est la création d'images au départ, mais c'est la création, même avant d'aller dans l'image, au piano, je ne joue que mes impros et mes compositions personnelles.
Parce qu'en plus, tu composes.
Ben,
c'est intéressant.
Là, ne connaissant pas solfège, déjà,
j'étais
un peu poussé dans le sens...
cette famille.
Dans le sens autonomie. Hein. Mais c'est l'improvisation, c'est... Surtout quand on ne t'écoute pas, je veux te dire...
Aussi, oui, on est complètement libéré.
T'es libéré, tu peux faire des fausses notes, c'est pas grave, etc. Quoi.
Vincent, il y a un musicien de jazz, mais je ne sais jamais si c'est Oscar Peterson ou Errol Garner qui ne connaissaient pas la musique.
C'est Errol Garner.
C'est Errol Garner. Mmh. Et quand tu vois ses compositions, c'est absolument incroyable. Mais comment il faisait? Est-ce qu'il avait quelqu'un à côté de lui pour écouter, noter, écrire les partitions pendant qu'il jouait?
Non, il n'y a pas besoin, puisqu'il composait sa musique en jouant son morceau qu'il inventait de toute pièce, dans la mesure où il n'y avait que lui qui le jouait. Après, les enregistrements de ces morceaux ont été repris par d'autres jazzman. Donc ça s'est transmis comme ça.
Et
retranscrit éventuellement.
Le voici, Errol Garner, avec un titre qui tombe à pic. Play, piano, play. Thank you. comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un type qui avait, qu'un musicien aussi fabuleux qu'Harold Garner ait pu ignorer la musique ?
Le solfège, plus exactement.
Oui, c'est ça.
Oui.
Entre ignorer la musique.
Faut faire le distinguo. Ah,
mais bien entendu. On apprend la musique d'une façon un peu bancale en Europe, enfin un peu partout dans le monde, puisque généralement, il faut commencer par faire du solfège avant d'appréhender un instrument. C'est-à-dire, grosso modo, on apprend à écrire avant de savoir parler. Dans les écoles, ça serait pas possible dans une école traditionnelle. Donc, ce solfège n'est absolument pas obligatoire pour jouer d'un instrument. On peut très bien jouer d'un instrument sans connaître une note de musique. La plupart des jazzman français, notamment les jazzman de jazz vieux style, ne savaient pas lire la musique. La plupart ne savent pas lire la musique. Et j'ai beaucoup de mes amis qui savent écrire la musique, mais qui ne savent pas la déchiffrer. C'est-à-dire qu'ils font des partitions, oui, parce que c'est pas le même mécanisme,
c'est pas la même démarche.
Ouais. Alors quand je dis, bien sûr, qu'ils vont la déchiffrer parce qu'ils connaissent, et comme ils l'écrivent, ils savent comment ça fonctionne, mais ils n'auront pas cette habitude qu'on apprend généralement très jeune et qui devient une seconde nature pour un musicien qui a fait du classique et capable
de la lecture automatique.
Anecdotiquement,
dans un tout autre domaine, Michael Jackson ne connaissait pas la musique.
Et pourtant, il était très bon.
Michael Jackson a fait des choses, je dirais, fabuleuses dans son style. Moi, je peux apprécier certains de ses titres parce que...
Il composait ?
Il était en répétition et c'était bien souvent pendant la préparation d'un spectacle qu'il avançait. Il disait, tiens, toi, je verrais bien que face à une remontée basse, machin, le piano plus rythmé de ce côté-là, plus... Et comme il était entouré de gens très compétents...
Oui, ça, c'est sûr.
Il y avait un amalgame positif qui se créait au sein du groupe. Et ça, petit à petit, avec son exigence, parce qu'il était très, très exigeant, ils arrivaient à faire des morceaux splendides et construits que l'on lui connaît.
Alors là, j'adore ce morceau. Voici les Jackson 5 avec I'll Be There. J'adore ce morceau.
I'll be there.
Vincent, je vais reprendre le CD que tu as apporté dans ce studio et que Roland Richard passera naturellement moultement dans ses émissions, qui s'appelle 60 ans, Claude Bolling Big Band, From CB to CB with Love. Tu es à l'origine de cet enregistrement. Tu nous as expliqué que tu nous as raconté, c'était très anecdotique et tout à fait fantastique, de retrouver des morceaux chez Claude Bolling de son vivant. Comment a-t-il perçu l'enregistrement de ce disque ? Est-ce que ça lui a plu ?
Oui, ça lui a plu. Alors, il était déjà fortement diminué à cette époque-là. Mais je lui ai présenté, il l'a écouté. Et j'ai compris à son sourire et à la façon dont il se comportait qu'il était très, très heureux.
Il aimait. Ouais, ouais. Il était très heureux, en plus, quasiment de se survivre à lui-même.
Oui, certainement.
Ça aussi, certainement. Ça, c'est important. Ouais, ouais.
Lui, son souhait, c'était de mourir sur le piano. C'était vraiment ça qu'il me disait à chaque concert.
Mourir en scène.
C'était vraiment le...
Comme Aznavour.
Oui.
Il est mort sur scène ?
Non, mais il en rêvait.
Oui, il en rêvait, oui.
Bien sûr.
Oui, oui. Autre personnage, je l'ai accompagné, Charles Aznavour, plusieurs fois. Oui, oui, j'ai fait des disques et j'ai...
Écoute, si tu veux que l'émission soit un petit peu plus courte, tu nous dis qui n'as-tu pas
accompagné. Non, mais Claude, voilà, c'était son souhait. Il travaillait le piano 8 heures par jour. Il était tout le temps en train de travailler. Et lui,
quand on t'entend, on est quand même... tu parais très admiratif de la façon dont il faisait son jazz. Ce travail, c'est quand même très, très conséquent. Et c'est assez fantastique de savoir que c'était en réalité toute sa vie.
C'est toute sa vie. Alors lui, vraiment, c'est toute sa vie. Moi, j'ai l'impression que ça m'a pris une grande part de ma vie. Mais lui, c'était vraiment toute sa vie. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, au quotidien, la vie réelle ne l'intéressait pas. Ne l'intéressait pas.
Comment était-il en personnalité avec ses
musiciens,
avec toi, particulièrement.
Il était sympathique, il était gentil, très paternaliste surtout, très très paternaliste.
Mais ça marche parfois.
Et ça marche, voilà. C'est-à-dire qu'il avait besoin de nous, il pouvait pas se passer de nous. S'il y avait un des musiciens qui manquait, c'était vraiment le drame absolu.
Puis il vous le disait, il vous le faisait ressentir aussi.
Et
un homme de cœur.
Un homme, oui, en tout cas, voilà. Après, ça restait du business. Hein, quand on est à la tête d'un big band, qu'on a la charge d'écrire de la musique, de participer à de la radio, de la télé, du film, il faut faire avancer la machine. Donc il n'y a pas de cadeau non plus. Hein. Si on ne fait pas l'affaire, on était remercié, pas sur le champ, mais rapidement. Quoi.
L'exigence et l'autorité fait malheureusement, entre guillemets,
ce qui est tout à fait normal. Moi, c'est vrai que c'est en vieillissant, en prenant beaucoup d'âge, que j'ai appris à aimer la... Non, mais c'est vrai.
Non,
c'est vrai.
Il n'y a pas l'image, mais franchement,
tu n'as pas changé.
Non, mais alors, c'est vrai, mais en revanche, j'ai quand même l'impression d'avoir beaucoup travaillé. C'est-à-dire que j'ai commencé à 21 ans, j'en ai 60 et je n'ai jamais arrêté. Jamais arrêté. C'est-à-dire que si je prends 15 jours de vacances par an...
C'est malheureux.
Mais oui, c'est presque ça. C'est-à-dire que j'ai toujours été dans un... Alors, j'exagère un peu parce que depuis quelques années, j'ai un petit peu diminué. J'ai appris à connaître Claude Bolling par sa force de conviction, sa persévérance. Et quand il me disait, tu verras, à mon âge, c'est difficile de maintenir son niveau de piano, etc. J'ai dit, mais Claude, comment tu peux perdre ton niveau de piano? Tu travailles 8 heures par jour. Il me dit, oui, mais maintenant, il faudrait que je travaille 12 heures par jour pour jouer ce que je joue. Il y a quelques années. Et je me rends compte de ça maintenant, parce que c'est vrai que j'y arrive aussi. C'est plus difficile en vieillissant.
C'est pas comme la bicyclette, il y a des choses qui s'en vont, quoi.
C'est-à-dire que la bicyclette, on reste toujours sur son vélo, mais si on fait de la compétition, forcément qu'on pédale moins vite à 60 ans qu'à 20 ans, c'est tout. A contrario, par exemple, un violoniste avec qui on avait enregistré, Stéphane Grappelli, qui est un grand, grand bonhomme de la musique, lui, au contraire, a pris ça... C'est-à-dire, grosso modo, il a joué de mieux en mieux, plus il avançait en âge. C'est-à-dire qu'il a évité tout bavardage et il s'est focalisé simplement sur la musique.
L'essentiel.
Benjamin Button, peut-être, un petit peu.
Oui, c'est un peu ça. Oui.
Et je l'avais vu à la grande parade du jazz de Nice, dans les arènes de Cimiez. Mon Dieu, quelle merveille. Ils étaient tous extraordinaires. C'est dommage que ça n'ait pas perduré, finalement. Le vrai festival, la grande parade du jazz... Je voudrais quand même faire une petite réflexion sur justement quelque chose que me disait mon frère Alain Gauvin. Il me dit « Marie, ce que tu ne fais pas un jour, tu ne pourras pas le faire le lendemain. Et ça, c'est important aussi. Il faut quand même essayer de se booster et continuer, malgré quelquefois la fatigue, le découragement, ou de continuer. Bah, le jazz, tu n'es pas prêt de l'abandonner.
Non, je ne suis pas prêt de l'abandonner, mais il faut simplement que je puisse le faire dans les conditions qui me conviennent. Voilà.
Bien sûr. Eh bien, c'est ce que je te souhaite voilà. De tout mon cœur, de continuer comme ça, et bien sûr de te revoir dans nos studios, parce que ça me fera énormément de plaisir, bien sûr. Au revoir Philippe Gauvin.
Au revoir Marie-France.
Au revoir Vincent.
Vincent
Cordelette.
Au revoir, merci beaucoup.
À bientôt. Roland Richard a enregistré cette émission et la réalisera pour vous dans les studios d'Eurocast de Radio Grand Ciel. Et nous nous quittons, chers auditeurs, avec Stardust, la poussière d'étoiles que sont allés retrouver Stéphane Grappelli et Claude Bolligne. Au revoir. Thank you.